Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la seconde et dernière émission du mois de février consacrée à nos mobilisations, nos combats, nos informations, etc. pour la promotion et la défense des droits humains. Comme je le dis à chaque fois depuis très longtemps sur l'antenne de Principe Actif, mais on le redira jamais assez. Donc, il y a pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Bonsoir.
Donc, c'est un peu la copie conforme de l'émission précédente, ou
ah
presque.
Non,
pas tout à fait, il n'y avait pas Claire-Lise, mais bon.
Elle
est avec nous ce soir, effectivement. Elle va mieux, parce qu'on avait dit qu'elle était un petit peu souffrante. Donc, tant mieux. Donc, encore une fois, beaucoup de sujets ce soir très divers par rapport aux droits humains. Et donc, restez à l'antenne et à l'écoute jusqu'à 20h, puisqu'on est en direct et en live, comme on dit, jusqu'à 20h. Donc, on va vous parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé depuis un certain temps dans l'émission, mais c'est les droits des enfants. C'est important, c'est Claire-Lise qui va vous en parler. On va vous parler, bien sûr, de l'assassinat d'Alexei Navalny en Russie. On va vous parler du recours à la force excessive entre Israël et la Cisjordanie, etc., etc. Et on terminera, comme à chaque fois, par nos infos locales. Donc, ce qui se passe ici et maintenant à Évreux, et donc des éléments importants aussi à avoir en tête. Voilà. Donc, tout de suite, c'est Claire-Lise qui va vous parler des droits des enfants. Et je crois qu'elle a quelque chose à vous dire qui concerne quelqu'un qui est à Évreux.
Oui. Donc, cette émission, elle va être dédiée à un jeune garçon qui s'appelle Abdoulaye. Abdoulaye, c'est un jeune Ivoirien qui est arrivé en France, un mineur non accompagné. Il a fait le voyage, il arrive, il n'a quasiment pas de vêtements, il est tout petit, il est maigre et il a peur. Abdoulaye, il a demandé à être reconnu mineur. L'ASE du département de l'Eure l'a remis à la rue au mois de décembre, alors qu'il avait un acte de naissance. Son acte de naissance disait qu'il allait avoir 16 ans fin janvier 2024. Donc, ils l'ont remis à la rue alors qu'il avait 15 ans et demi. Depuis, Abdoulaye, il vit dans la rue. Il ne peut pas appeler le 115 puisque c'est un mineur non accompagné. Et même pendant les périodes de grand froid, ils n'ont pas été mis à l'abri. Il n'a pas su aller vers le gymnase quand il a été ouvert pendant une semaine. Abdoulaye, il dort à la gare. Il a peur. Il se met un sac plastique sur la tête pour ne pas voir les gens venir la nuit. Voilà. Il ne s'est pas lavé depuis de nombreuses journées. Il passe de temps en temps donc au CFED d'Asti. Je l'ai mis en lien avec le réseau d'éducation sans frontières, avec Thierry. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de solution d'hébergement pour tous les jeunes. Malheureusement, il y a plus de 20 ou 25 ans jeunes qui sont actuellement dans les rues, qui n'ont pas de solution, qui ont été rejetés par l'ASE. Il faut savoir que quand les associations s'occupent de ces mineurs non accompagnés, dans la plupart des cas, soit sur tous les départements de France, dans 75 à 80% de ces jeunes, quand ils sont pris en charge par des associations, ont fini par faire reconnaître leur minorité devant les juges des enfants par une saisine auprès du juge des enfants. Et donc, je pense qu'Abdoulaye finira par être reconnu mineur avec l'aide de l'association, mais ça prendra 6, 8 mois avant qu'il puisse être hébergé. En attendant, ce sont des jeunes qui sont dans la rue. Alors, je voulais vous parler de la commission des droits des enfants et en faire un lien avec les mineurs non accompagnés, parce que l'hébergement des mineurs migrants est une thématiques récurrentes, et notamment dans les Alpes-Maritimes, à seulement 40 km de Nice, près de Vintimille. Et il y a un foyer qui veut leur donner l'enfance qu'ils n'ont pas eue. Donc il y a des expériences qui tentent d'être menées. Et dans le flash info de la commission des droits de l'enfant d'Amnesty, il y a beaucoup de petits reportages comme ça avec des liens. Donc si vous pouvez avoir le flash info, on peut vous le communiquer par mail. Et il y a vraiment des liens avec des expériences qui se passent en France. Et par exemple aussi à Lyon, il y a des élus carrément qui ont décidé d'essayer de mettre en place ce qu'ils appellent une présomption de minorité pour garantir les droits des mineurs isolés. Ça va complètement à l'encontre de ce qui se passe un peu partout dans tous les départements, puisque maintenant, même l'ASE parfois refuse d'évaluer les jeunes mineurs. Donc on n'échaigne même plus, parce que souvent on les évalue, puis on dit « ils sont pas mineurs, on les remet à la rue ». Là, on n'essaye même plus de les évaluer. Et j'ai participé il n'y a pas longtemps à une émission Zoom, enfin une formation Zoom sur les droits des mineurs, et c'est vraiment récurrent dans plein de départements. Il y a un refus d'évaluer ces jeunes mineurs qu'on laisse dans la rue. Désespérer les jeunes, les désespérer d'eux-mêmes, c'est les désespérer pour l'avenir, et c'est créer des jeunes qui peuvent être après des bombes à retardement. Donc, en France, il y a les mineurs non accompagnés. Il y a aussi tous les jeunes enfants qui sont enfermés. Je passe que je me mélange dans toutes mes feuilles. Donc voilà.
Tu vas t'y retrouver. Tu vas t'y retrouver.
J'avais tout bien trié et j'ai tout mélangé.
Donc enfermé en centre de détention, c'est ça ?
En centre de rétention, oui. Je vais le retrouver tout à l'heure. Donc je vais vous le redire. Et à Marseille, entre 150 et 200 personnes se déclarant mineures dorment dehors. Donc le département se dit débordé, prêt à se mettre hors la loi en les refusant. Ces jeunes attendent alors qu'on leur demande que leur demande de minorité soit réévaluée par le juge des enfants. Et donc, c'est ce que je vous disais, il y a 75 à 80% qui finissent finalement par avoir gain de cause selon les associations. Donc ça, je suis en train de me redire. Voilà, c'est bien, c'est fait. Je voulais vous reparler aussi de ce qui concerne la situation des enfants en France. Et nous avons des raisons de nous inquiéter. Donc, à cause de la nouvelle loi immigration qui bafoue de nombreux articles de la Commission internationale des droits des enfants. À titre d'exemple, le conditionnement ou la restriction de certaines prestations risque de précariser encore davantage des enfants, alors que le nombre d'enfants vivant en situation de pauvreté a déjà augmenté de 30% ces dernières années. Par ailleurs, l'état des lieux dans les territoires ultramarins fait aussi frémir. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe en France, mais il y a aussi les territoires outre-mer, où par exemple à Mayotte, c'est vraiment très très compliqué par rapport aux enfants issus de l'immigration. Le Conseil d'État a validé une circulaire du ministère de l'Éducation destinée à améliorer l'accompagnement de ces enfants. Et donc, vous retrouverez aussi dans les flash infos, j'ai perdu le fil, donc on le retrouvera aussi dans les flash infos de la commission des droits des enfants. 2023, ça a été une année noire pour les enfants, de Haïti au Soudan, du Yémen à l'Ukraine, de l'Afghanistan au Proche-Orient, pour les 460 millions d'enfants, soit environ un enfant sur cinq, qui vivent dans les zones de conflit, survivre est devenu un véritable défi. Donc l'UNICEF a publié un article sur les défis et les ambitions de l'UNICEF pour essayer de protéger ses enfants. Mais c'est quand même hallucinant, 460 millions d'enfants, donc 1 sur 5 qui vivent dans des zones de conflit en ce moment, dans le monde. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a publié un focus sur les mutilations sexuelles féminines dans le monde. Et plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes, toujours en vie, ont été victimes de mutilations sexuelles pratiquées dans 30 pays, Afrique, Moyen-Orient, Asie. Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l'âge de l'enfance et l'âge de 15 ans.
Voilà, la petite enfance est 15 ans. Et le Parlement européen donc, et les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour mieux lutter contre les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore la divulgation d'images intimes. Néanmoins, la question du viol n'a pas été couverte par cette directive en raison de l'opposition de plusieurs États membres, dont la France et l'Allemagne.
Tiens donc.
Mais oui, tiens donc. Et dans un rapport, le Conseil de l'Europe souligne que 18 millions d'enfants sont victimes d'abus sexuels, 44 millions de violences physiques et 55 millions de violences psychologiques. Il préconise que chaque pays dresse un état des lieux des violences, une reconnaissance et reconnaisse les souffrances subies, présente des excuses officielles et indemnise les victimes. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, des experts de l'ONU exhorte la France à protéger les enfants contre l'inceste et à s'attaquer aux traitements discriminatoires et aux violences subies par les mères qui tentent de protéger leurs enfants. Donc ça, c'est l'ONU qui exhorte la France en 2023. Donc on n'en parle pas souvent à la télé, mais il y a quand même aussi un manque de protection des enfants aussi en France. Par rapport à l'hébergement, eh bien, il y a aussi des problèmes d'hébergement et on le sait. Hein, selon la fondation Abbé Pierre, 3000 enfants se posent cette question « Maman, on dort où ce soir ?» À quand une véritable réponse de l'État pour que plus aucun gosse ne couche ce soir sur l'asphalte ? Donc ça, c'est la fondation Abbé Pierre qui a fait un gros focus le mois dernier par rapport à l'hébergement d'urgence qui est en situation de crise en France. Effectivement, ça touche aussi les enfants migrants, mais ça touche aussi des familles françaises et un manque de place en hébergement d'urgence. Et des enfants se retrouvent à la rue. Des enfants vont à l'école après avoir dormi à la rue et sans avoir déjeuné le matin. Voilà. Et ça se passe aussi près de chez nous.
Juste pour commenter ce que tu viens de dire, Claire-Lise, effectivement, il y a la Fondation de l'Abbé Pierre qui a publié, alors je ne l'ai pas pris, j'ai pas pris le temps de le lire, mais j'ai entendu des résumés faits dans d'autres médias, une situation sur le mal logement en France et qui englobe aussi tout un chapitre sur les enfants à la rue, enfin, etc. Et c'est sur le site de la Fondation de l'Abbé Pierre. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller consulter ce site et ce rapport. Voilà, je te rends la parole.
Alors, j'ai beaucoup fixé sur la France, hein, mais je vais vous parler aussi de ce qui se passe en Cisjordanie pour les enfants tout à l'heure, et puis un petit peu de l'Ukraine. Donc, la CNIL alerte aussi sur les dangers de la publication de photos et de vidéos de mineurs sur les réseaux sociaux. Donc, elle pose la question de la responsabilité des parents et des incidences sur la vie privée de leurs enfants. Quels sont les risques et quels sont les réflexes à adopter ? Ça fait un petit peu référence à notre émission Fréquence Droits Humains sur le corps des enfants. Donc ça, c'est le journal du Geek qui a fait tout un... Vous pouvez retrouver aussi en cherchant tout un article sur les photos des enfants sur les réseaux sociaux. Voilà. Et la CNIL, partage de photos et vidéos de votre enfant. Il y a aussi des articles à pouvoir aller voir. Ensuite, je voulais quand même vous dire aussi que dans le monde, l'UNESCO a dédié la Journée internationale de l'éducation au rôle crucial joué par l'éducation et les enseignants dans la lutte contre les discours de haine. La propagation accélérée des discours de haine est une menace pour toutes les communautés. Notre meilleure défense, c'est l'éducation, qui doit être au cœur de tout effort de fait. Donc ça, c'est un article aussi qui a été publié par l'UNESCO et qui concerne effectivement les enfants. Et je voulais terminer sur aussi les enfants déportés. Il y a plus de 19 000 enfants qui ont été déportés d'Ukraine pendant la guerre,
oui.
Et dont on reste sans nouvelles. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au flash info de la commission des droits des enfants. Il y a aussi des choses qui concernent les enfants de Gaza et de Rafah, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, tout à l'heure.
Juste aussi pour compléter ce que tu viens de dire sur les enfants déportés de l'Ukraine vers la Russie avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie actuellement, il y a un reportage très bien fait qui a été diffusé il y a très peu de temps par Arte, sur la chaîne de télévision Arte, qui doit encore être disponible en replay et qui était consacré à ce sujet, effectivement. et c'est très, 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 c'est très parlant, les atteintes aux droits fondamentaux de ces enfants et ce qui se passe à l'heure actuelle, effectivement, entre l'Ukraine et la Russie, et principalement du fait des exactions commises par M. Poutine.
Voilà. Merci à vous deux.
Pour revenir juste à Abdoulaye, si parmi vous, il y a des gens qui ont la volonté d'héberger des mineurs non accompagnés, ils peuvent se faire connaître par le biais de la radio et on transmettra à l'association Réseau d'éducation sans frontières. On cherche des hébergeurs bénévoles pour un jour, une semaine, un mois, enfin voilà.
Okay. Oui, tu as raison de le rappeler. Donc, merci à vous deux. Maintenant, c'est à moi de parler.
Vas-y, Mina, parle.
Mina, fais ta révolution.
Révolution. Alors, malheureusement, Alexeï Navalny, premier opposant du Kremlin, est mort en détention. Vendredi 16 février, Alexeï est mort en détention dans une colonie pénitentiaire russe. Choc, colère, indignation. Fervent militant politique et anticorruption russe, Alexeï Navalny était l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine. Nous appelons dès maintenant à une enquête indépendante. Ils l'ont tué, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, suite à l'annonce de sa mort. Le Kremlin cherche depuis des années à faire taire Alexeï Navalny. Sa condamnation à 19 ans de prison était uniquement motivée politiquement. En décembre 2023, il avait été déplacé dans la colonie pénitentiaire la plus reculée de Russie, au nord du cercle polaire arctique. C'est ici, isolé du monde, qu'Alexeï Navalny est mort en détention. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Cela fait des années que nous menons des actions de mobilisation où nous scandons avec ferveur « Free Navalny ». Nous sommes encore sous le choc de sa mort, mais nous allons continuer le combat et nous battre pour que justice soit rendue. Avocat de formation, Alexeï Navalny crée en 2011 la Fondation Anticorruption. Avec ses équipes, il menait des enquêtes documentant la corruption au plus haut niveau de l'État. Pour ce travail, Alexeï et plusieurs employés de la Fondation ont subi des représailles. C'est cette même année, en 2011, qu'il se fait connaître du grand public au moment d'importantes manifestations organisées contre des fraudes aux élections législatives. Alexeï Navalny deviendra alors de plus en plus présent sur la scène politique russe. Il se présentera à plusieurs élections. En 2013, il est candidat à la mairie de Moscou, où il finira en deuxième position. En 2018, il tente de se présenter à l'élection présidentielle, mais la justice russe le déclare inéligible. Les autorités russes semblaient déjà déterminées à faire taire cette voix contestataire. Par le passé, Alexeï Navalny a pu tenir des propos pouvant s'apparenter à un appel à la haine. Nous tenons à rappeler que nous condamnons ces propos susceptibles de constituer une incitation à la discrimination, à la violence ou à l'hostilité. Mais il ne doit pas y avoir de confusion. Rien de ce qu'a dit Alexeï Navalny par le passé ne pouvait justifier sa détention qui était purement motivée par des considérations politiques. Alexeï Navalny a été arrêté à plusieurs reprises simplement parce qu'il appelait ou participait à des manifestations pacifiques. En août 2020, alors qu'il rentrait d'une tournée électorale, Alexeï Navalny tombe gravement malade, victime d'un empoisonnement. Il a été emmené d'urgence dans un hôpital en Sibérie avant d'être transféré en Allemagne. Plongé dans le coma, il se réveillera un mois plus tard à Berlin, entouré par sa femme et ses enfants. Des experts indépendants en Allemagne et dans plusieurs autres pays ont diagnostiqué son empoisonnement au Novichok, une arme chimique extrêmement dangereuse. Le militant russe avait accusé les services secrets et Vladimir Poutine d'avoir orchestré son empoisonnement. De leur côté, les autorités russes ont refusé d'ouvrir une enquête sur l'empoisonnement de Navalny. Après 5 mois de convalescence en Allemagne, Alexeï Navalny décide de revenir en Russie. En 2021, malgré les menaces d'arrestation et d'emprisonnement. Et la menace était bien réelle. Le 17 janvier, alors qu'il sortait à peine de l'avion en provenance de Berlin, Alexeï est arrêté par la police russe. Après avoir passé plusieurs jours en détention provisoire, la justice a finalement condamné le militant anticorruption à 2 ans et 8 mois de prison. La raison ? non-respect d'un contrôle judiciaire lié à une ancienne condamnation en 2014. Une parodie lorsque l'on sait qu'Alexei se faisait soigner en Allemagne suite à son empoisonnement. Après cette arrestation, des manifestations ont gagné toute la Russie pour demander sa libération et pour protester contre la corruption au plus haut niveau du pouvoir. Depuis 2021, Alexei purge une peine de prison d'abord dans la colonie pénitentiaire de la localité de Pokrov, réputée comme étant l'une des prisons les plus sévères du pays. Alors que son état de santé se dégradait, les autorités pénitentiaires russes lui refusent un accès aux soins. Le 4 août 2023, le tribunal de Moscou a condamné Alexei Navalny à 19 ans d'incarcération dans une colonie pénitentiaire pour des chefs d'accusation comprenant entre autres le financement et l'incitation à l'extrémisme et la réhabilitation du nazisme. Une nouvelle condamnation qui ajoutait 10 ans supplémentaires à sa peine de prison initiale. Cette condamnation n'est rien d'autre qu'une condamnation à perpétuité, déclarait Marie Stutters, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, au moment de l'annonce des 19 ans de prison d'Alexei Navalny. Les nouveaux chefs d'accusation étaient liés aux activités de la fondation anticorruption fondée par Alexei Navalny, qui a été interdite par les autorités russes en 2021, et à des déclarations faites par des membres de la fondation, donc pas par Alexei. Si vous avez bien compris, parce que quand on lit la phrase, c'est un peu...
C'est compréhensible.
Anticorruption était enregistrée légalement en Russie avant l'emprisonnement d'Alexei Navalny. La désignation arbitraire de l'organisation comme extrémiste a fourni un motif pour les poursuites qui ont suivi contre Alexei Navalny et ses associés pour des accusations liées à l'extrémisme. Les autorités russes ont tout fait pour museler cette voix critique. Elles sont déterminées à enfermer quiconque ose dénoncer et critiquer le pouvoir. Vendredi 16 février, Alexei Navalny est mort en détention. Une enquête indépendante doit s'ouvrir. Cet article, donc, il vient du site d'Amnesty International. Voilà, vous connaissez, pour ceux qui ne connaissaient pas Alexei, son parcours. Et j'ai une pensée pour Anna Politkovskaya. Oui. Qui, malheureusement, est morte aussi il y a très longtemps, pour s'être opposée aussi à Poutine. Et si vous voulez lire, comme je ne fais pas de rubrique culturelle ce soir, une BD sur sa vie, vous pouvez aller... L'éditeur, c'est Stenkis, et c'est Anna Politkovskaya, tout simplement. Et Stenkis a sorti beaucoup de livres sur des personnalités qui se sont battues pour leurs droits. Donc n'hésitez pas, et je vais laisser la parole pour des gens plus lambda russes, à Didier, qui se battent aussi...
Les gens plus lambda.
Lambda moins connus.
Oui.
Oui. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit, Didier. Qui se battent aussi pour s'opposer et défendre leurs droits. À toi, Didier.
Pour rappel, Anna Politkovskaya, qui était une journaliste russe, effectivement, qui gênait beaucoup le pouvoir, a été assassinée en 2006. Voilà. Donc, oui, alors effectivement, il faut penser quand on... Juste avant la pause musicale qu'on va vous faire juste après, il faut penser aussi à toute la population russe qui s'oppose au régime de Vladimir Poutine. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias officiels, effectivement, ces gens-là sont les premières, ils sont nombreux, sont les premières victimes de la dictature du régime actuel en Russie. Et donc, il ne faut surtout pas les oublier. Et donc, il y a un article qui est paru dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le formulaire en ligne sur le site amnesty.fr. On le dit à chaque fois, mais on ne le redira jamais assez. Et donc, il y a un article qui est paru et qui s'appelle « Présumé coupable », qui est en fait les inquiétudes que ressentent les différents réfugiés qui sont arrivés en France suite à la déclaration de guerre de l'armée russe en Ukraine. Donc effectivement, qui ont fui la Russie. Alors je vais vous lire simplement deux ou trois extraits de cet article. Le chiffre est difficile à estimer. Il serait de 1 à 3 millions à avoir quitté la Russie depuis le début de la guerre contre l'Ukraine en février 2022. Ces exilés russes sont confrontés à une double déflagration. Ils ont dû laisser leur pays en catastrophe et sont perçus comme des citoyens du pays agresseur. Et c'est ça, effectivement, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ces gens-là sont les premières victimes du régime russe et ce n'est pas l'inverse. Alors, juste quelques extraits, quelques réflexions parmi ces différents réfugiés en France. à Paris, Ekaterina, donc c'est une réfugiée, est logée par une chercheuse française. Elle n'a pas ni revenu ni travail et n'a pas d'accès à son propre compte bancaire. Les sanctions prises par l'Union européenne contre les banques russes empêchent notamment toute transaction avec un compte russe depuis la France. Et ça, on n'en a pas assez conscience. Et les cartes bancaires ne fonctionnent plus. À son arrivée, elle a rejoint naturellement les manifestations organisées pour soutenir les Ukrainiens et s'opposer à la guerre. Un autre témoignage, donc, d'une personne qui dit qui prend des médicaments, des calmants. Elle s'appelle Irina. Elle avoue qu'elle est sous médicaments. Elle a été croisée dans l'une de ces manifestations contre la guerre. Quand elle est arrivée à Paris avec sa fille, elle n'osait plus parler russe dans la rue. Elle avait peur d'être lynchée. Bon, ça, c'est effectivement une des réflexions qu'on doit avoir, encore une fois, par rapport à ces gens-là. Et la troisième, et je m'arrêterai là, le troisième petit témoignage fait par un autre réfugié russe à Paris, qui dit « Cette guerre est faite au nom de la Russie, c'est mon pays qui bombarde l'Ukraine, et même si je milite depuis plus de 10 ans, la honte d'être un citoyen russe me colle à la peau, c'est un sentiment horrible, irrationnel. » Alors encore une fois, ces gens-là sont des victimes, ces réfugiés russes sont des victimes de la dictature de M. Poutine, comme ceux qui se battent encore à l'intérieur du pays à l'heure actuelle, et ils méritent effectivement tout notre soutien.
Et rappelle-toi, quand on a fait Fréquence Droits Humains l'année dernière sur l'émission spéciale sur les réfugiés,
tout à fait.
Seva, un jeune réfugié russe, était arrivé avec son drapeau en faveur de Navalny. Il l'avait
mis sur la table.
Notre table à côté du drapeau d'Amnesty.
Tout à fait.
Pour l'émission. Et on a une petite pensée pour Seva qui doit être bien triste cette semaine.
Si vous voulez réécouter, j'avais noté sur l'article, si vous voulez réécouter l'émission, c'était une émission qui a été diffusée, que vous avez en podcast sur Principe Actif, le 22 juin de l'année dernière. Voilà, avec le témoignage de Seva. Donc, on première pause musicale et on se retrouve juste après.
Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Quel est le nom du mal? On peut subir la fièvre, les étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, crier mon effroi. Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde,
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission pour la promotion et la défense des droits humains. On vient d'entendre un morceau de musique. Alors les deux morceaux de ce soir ont été encore une fois choisis par Mina. Et ce premier morceau s'appelle Allô le monde. Il a été chanté par une artiste française qui s'appelle Pauline. Voilà. Et donc on va passer à un autre sujet. C'est Claire Lys qui va vous parler des exactions commises par l'armée israélienne vis-à-vis de la population palestinienne en Cisjordanie.
Donc juste avant de rappeler ça, on a quand même en tête aussi que le 7 octobre, il y a des milliers d'enfants et de civils, enfin plus d'un millier d'enfants et de civils qui ont été massacrés aussi par une des exactions perpétrées par le Hamas. Et donc là, je vais vous parler de la nette augmentation du recours à la force meurtrière illégale par les forces israéliennes contre les Palestiniens et Palestiniennes en Cisjordanie occupée. Alors que le monde a le regard rivé sur Gaza, les forces israéliennes déchaînent depuis 4 mois une vague de violence contre les Palestiniens et les Palestiniennes en Cisjordanie occupée, se livrant à des homicides illégaux, notamment en recourant à la force meurtrière sans nécessité ou de manière disproportionnée lors de manifestations et d'arrestations et privant les blessés d'assistance médicale, a déclaré Amnesty International. Donc, Amnesty a recueilli de nouveaux éléments de preuve d'attaques illégales, meurtrières, dans la bande de Gaza occupée, qui démontrent que les forces israéliennes continuent de bafouer le droit international humanitaire, anéantissant des familles entières en toute impunité. L'organisation a mené une investigation sur 4 frappes israéliennes, 3 en décembre 2023 après la fin de la pause humanitaire et une en janvier 2024 qui a fait au moins 95 victimes civiles, dont 42 enfants à Rafah, le gouvernorat situé le plus au sud de la bande de Gaza, à un moment où il était censé être la zone la plus sûre de la bande. En examinant ces 4 attaques, l'organisation n'a trouvé aucun élément indiquant que les immeubles d'habitation touchés pouvaient être considérés comme des objectifs militaires légitimes, ni que les personnes se trouvant à l'intérieur étaient des cibles militaires, ce qui laisse craindre que ces frappes ne constituent des attaques directes, contre des civils ou des biens de caractère civil. Elles doivent donc faire l'objet d'enquêtes en tant que crimes de guerre. Même si les forces israéliennes avaient l'intention de cibler des objectifs militaires légitimes à proximité, ces attaques n'ont à l'évidence pas fait de distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil. Elles auraient donc été menées sans discrimination. Les éléments de preuve recueillis par Amnesty International indiquent aussi que l'armée israélienne n'a pas averti de manière efficace, voire pas du tout, les habitants des sites touchés avant de procéder aux frappes. Ces attaques illustrent la tendance des forces israéliennes à bafouer le droit international et contredisent les autorités israéliennes qui assurent que leurs forces prennent des précautions accrues pour réduire au minimum les dommages causés aux civils, a déclaré Erika Guevara Rosas, directrice des recherches du plaidoyer des politiques et des campagnes à Amnesty International. Or, ce type d'attaque qui tue et blesse des civils constitue des crimes de guerre. La Cour internationale de justice a rendu un arrêt provisoire important, affirmant que le risque de génocide est réel et imminent. Et ces cas terribles entérinent l'urgence pour tous les États de réclamer un cessez-le-feu immédiat et durable, moyen le plus efficace de mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour. Il souligne aussi l'importance d'un embargo total sur les ventes d'armes de toutes les parties au conflit. Les recherches d'Amnesty International établissent clairement le bilan effroyable des attaques incessantes et illégales menées par Israël à Gaza. 4 mois après le début de l'offensive israélienne, on recense plus de 28 000 morts et plus de 60 000 blessés parmi les Palestiniens et les Palestiniennes, dans le contexte d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Face à l'ampleur du bilan et des destructions, tous les États sont tenus d'agir afin de prévenir le génocide. Pourtant, des États-clés n'ont pas appelé clairement à cesser le feu et continuent d'alimenter les crimes de guerre en fournissant des armes à Israël, a déclaré Erika Guevara Rosas. Les vagues successives de déplacements de population ont fait de Rafah la zone la plus peuplée de Gaza,
où plus d'un million de personnes vivent entassées dans une zone de 63 km². Ces personnes déplacées vivent dans des conditions très dures, par exemple sous des tentes de fortune ou dans des écoles. La population du gouvernorat a été multipliée par 5 par rapport à la période d'avant-guerre. Les forces israéliennes se préparent actuellement à une opération terrestre qui risquerait d'avoir des conséquences cataclysmiques pour les personnes déplacées, qui n'ont nulle part où aller, et pour l'ensemble d'un système d'aide déjà à bout de souffle. On vous propose de signer une pétition qui est sur le site d'Amnesty, qui est en ligne, pour un cessez-le-feu immédiat, par exemple, dans la bande de Gaza. Et par rapport à la commission des droits des enfants, justement, il y avait plusieurs informations sur les enfants à Gaza, où des bébés naissent dans des conditions infernales, dans la rue, et dans une ambiance de guerre. Des milliers d'orphelins errent dans les rues de l'enclave palestinienne pour chercher de la nourriture ou pour trouver refuge à l'hôpital. Des enfants blessés et opérés sans anesthésie. Ils ont perdu une jambe ou un bras. Ils font partie des 9000 enfants blessés depuis le début du conflit, alors que, selon l'OMS, le système de santé est HS. Voilà. Vous dire aussi qu'il y a plus de 500 enfants palestiniens. Ça, c'est un reportage d'Amnesty qui dit que chaque année, plus de 500 enfants palestiniens sont envoyés en prison par les autorités israéliennes. Dès l'âge de 12 ans, ils peuvent se retrouver devant une cour militaire illégale. Ces conditions d'incarcération se sont encore durcies depuis le 7 octobre. Ça, c'est ce que subit la population en Cisjordanie occupée depuis des années, et notamment les enfants. Et donc... Amnesty dénonce ce net recours à la force et en 2023, 5870 enfants de Cisjordanie n'ont pas pu aller à l'école primaire et 4599 autres enfants ont eu des difficultés à accéder à l'éducation. Depuis le 7 octobre 2023 à Gaza, 625 000 élèves et 22 564 enseignants n'ont plus accès à l'éducation, selon le Bureau central palestinien des statistiques. 76% des écoles de Gaza sont endommagées ou détruites. Voilà, c'était pour vous parler et faire un petit lien avec la commission enfants sur ce qui se passe à Gaza actuellement.
Oui, et ce que tu disais, Claire-Lys, sur le fait qu'il y ait plusieurs centaines d'enfants palestiniens qui soient, qui soient incarcérés par les forces armées israéliennes, c'est tout à fait contraire au droit international et c'est tout à fait en dehors de toute légalité que ce genre de choses est pratiqué. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir signer la pétition sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous avez toute une série de pétitions, dont celle-là, pour réclamer effectivement un cessez-le-feu. Et par rapport à ça, je vais juste apporter une petite information complémentaire rapidement sur ce que vient de dire Claire-Lise. C'est une lettre ouverte qui a été envoyée par Jean-Claude Semouillé, qui est le président d'Amnesty International France, qui a été adressée à M. Emmanuel Macron, président de la République, comme tout le monde le sait, et qui rappelle que une des choses tout à fait évidentes sur lesquelles devrait s'engager la France, c'est d'arrêter de vendre des armes à Israël, parce que pour l'instant il y a toujours des transferts d'armes entre la France et Israël, sachant ce qui se passe effectivement et les crimes qui sont commis à l'heure actuelle par l'armée israélienne. Et donc je ne vais pas vous lire cette lettre, elle fait deux pages, mais encore une fois elle est tout à fait lisible sur le site d'Amnesty, n'hésitez pas à la lire dans sa totalité. Mais elle rappelle simplement dans cette lettre la phrase d'un haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères qui s'appelle Monsieur Joseph Borrell et qui est reprise donc par Jean-Claude Semouillé, qui dit la chose frappée du bon sens suivant. Si vous pensez, donc c'est à Monsieur Macron, si vous pensez que trop de gens sont tués, peut-être devriez-vous fournir moins d'armes, n'est-ce pas logique? Voilà. Donc effectivement, c'est comme quelque chose qui est frappé au coin du bon sens. Et Jean-Claude Semouillé termine en disant que, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la voix de la France compte et qu'un tel arrêt des transferts d'armes pourrait aller dans le sens du cessez-le-feu que l'on souhaite. Voilà. Mais c'est maintenant Mina qui va vous parler de toute autre chose. Et je crois que ça se passe en Grèce.
Je vais te dire un secret.
Vas-y.
Que je t'ai pas dit tout à l'heure.
Vas-y.
J'aimerais bien écouter un peu de musique parce que je suis triste, s'il te plaît, Didier.
C'est vrai?
Oui, donc, je voudrais bien la deuxième pause musicale tout de suite.
Tu la veux
s'il
tout de suite?
Oui.
On change la façon de faire et tu parleras de la Grèce tout à l'heure.
Merci. Le meilleur des mondes, c'est ça?
Ouais.
Donc, si vous voulez savoir pourquoi Mira, vous parlez de la Grèce, de quitter par l'antenne, vous allez le savoir juste après.
Avec la misère, seulement on avait déjà du mal à faire, et maintenant il y a la guerre. Cette année, ces années militaires, m'auront tout pris, si frère, un père, une terre, mes amis, mon pays. Allons ma mère, partons, c'est mieux ici, il n'y a plus rien à faire. Pour l'amour de Dieu, allons vers l'ouest, quittons donc ce funeste lieu. Allons quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Dans le mieux, dans le meilleur des mondes. Maman n'a malheureusement pas su porter les cons. Bois de nuit, les faux planchers et les fonds de casse, ça l'a tué. Et moi je n'ai pleuré que lorsque j'ai réalisé à quel point on avait bien pu nous leurrer. Ah, à la radio, dans les journaux, il parlait d'un pays merveilleux. Il parlait d'un pays merveilleux, il parlait d'un pays merveilleux, il parlait d'un pays merveilleux. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Pour le mieux, dans le meilleur des mondes.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la dernière partie de son émission. On vient d'entendre un morceau qui n'est pas récent, mais qui est toujours parfaitement d'actualité, si vous avez écouté les paroles. Et ce morceau s'appelle
Le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes, merci Mina, de Tété. Et c'est un morceau qui a été choisi aussi par Mina. Voilà. Et donc Mina voulait vous parler de la Grèce.
Allez, un peu de bonnes nouvelles. En Grèce, le jeudi 15 février, le mariage et l'adoption d'enfants par les couples de même sexe, un jalon important dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans un pays où l'influente église orthodoxe s'était farouchement opposée à cette avancée majeure pour les droits humains, la Grèce a approuvé le projet de loi. Le projet de loi autorisait le mariage civil entre couples de même sexe. De même, les parents non biologiques vivant dans un mariage homosexuel vont pouvoir adopter l'enfant biologique de leur conjoint. La loi étend également l'interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles aux biens et services, aux prestations sociales et avantages fiscaux. En outre, la loi reconnaît les mariages célébrés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi et facilite la reconnaissance de l'état civil des enfants nés à l'étranger. La loi a été adoptée à la majorité à l'issue d'un débat intense au Parlement et au-delà, dans un contexte de discours public homophobe et transphobe. Sur les 254 députés qui ont exprimé leur vote, écoutez bien, vous entendez ou pas ?
Oui, oui. Moi, je t'entends, en tout cas.
175 ont voté en faveur du projet de loi. Le pays méditerranéen devient le 21e pays d'Europe à adopter le mariage homosexuel, le 37e pays dans le monde, le 17e dans l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. Alors, Despina Paraskeva Veloudo Gianni, coordonnatrice des campagnes d'Amnesty International Grèce, a réagi. C'est une victoire durement gagnée pour les personnes qui ont mené cette bataille. Elle accorde aux couples de même sexe et à leurs enfants la visibilité et les droits dont ils étaient privés depuis longtemps. Toutefois, bien sûr, il y a toujours un petit mais, bien que la loi apporte des changements majeurs, elle ne permet pas une égalité totale pour les parents non biologiques et ne reconnaît pas les identités au-delà de la conception binaire du genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, la loi ne donne pas accès aux techniques de PMA et de la GPA. Ouais, mais j'ai dit, les gens, ils sont intelligents quand même.
Ils savent.
Alors, PMA, procréation médicalement assistée, et de la GPA, gestation pour autrui. Pour les couples de même sexe, les hommes célibataires, les personnes transgenres et intersexuées. La loi ne permet pas non plus aux parents trans de changer leur nom et leur genre sur l'acte de naissance de leurs enfants. Les autorités grecques doivent prendre des mesures afin d'assurer la mise en œuvre rapide et effective de la nouvelle loi, mais aussi adopter d'autres changements législatifs qui permettront de garantir la pleine égalité pour les personnes et les familles LGBTI+. L'incapacité des autorités à écouter les appels répétés des organisations LGBTI+, perpétue de multiples formes de discrimination à l'encontre des personnes LGBTI+, et montre que même si la lutte avance, elle est loin d'être terminée. Donc une bonne nouvelle à continuer...
À confirmer, enfin à améliorer, c'est ça que tu voulais dire.
Encore des droits à défendre, parce que tout n'a pas été acquis, mais il y a déjà un bon début.
C'est ça. Et ça
le combat n'est pas terminé.
Ça ne peut que nous continuer à nous faire prendre conscience que c'est important de continuer à lutter avec Amnesty pour la défense des droits humains, parce qu'on obtient ce genre d'évolution dans les législations de différents pays.
On va aller manifester, tiens, c'est un de nos droits. Hein, Clarlys, manifestons.
Alors, je crois qu'on va changer de continent. Maintenant, on va passer en Afrique, mais c'est Clarlys qui va vous en parler.
Oui. Donc, je vais vous parler d'une pétition qui est en ligne sur les sites d'Amnesty aussi et qui concerne le Sénégal, qui réclame justice pour les personnes tuées lors de manifestations. Donc, c'est une pétition qui est en ligne jusqu'au 30 août 2024. Mourir sous les balles de la police, c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes au Sénégal lors des manifestations de mars 2021, de juin 2023 et de février 2024. Aucune justice n'a été rendue pour les manifestants tués en 2021 et aucune enquête n'a encore été ouverte pour les manifestants tués en 2023. Pour que cesse la répression et l'impunité, interpellez les autorités sénégalaises. Les 9 et 10 février 2024, les forces de sécurité sénégalaises ont tué 3 personnes, dont un adolescent de 16 ans, et arrêté des centaines de personnes lors d'une manifestation contre le report de l'élection présidentielle. Il faut enquêter sur ces homicides et ces violences policières. Tir à balles réelles, arrestations arbitraires, utilisation de boucliers humains. Les manifestations qui ont éclaté au Sénégal le 1er juin 2023 ont été violemment réprimées par les autorités. Au moins 23 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées. Un bilan déjà plus lourd que celui de mars 2021, et 357 personnes ont été blessées d'après la Croix-Rouge sénégalaise. Ousmane Badio, âgé de 17 ans, est l'une des victimes de la répression violente des manifestations au Sénégal de juin 2023. Il a été touché par un tir mortel le 1er juin à Zinguinchor, au sud du Sénégal. Il a été touché à la poitrine et il perdait beaucoup de sang. Nous l'avons emmené à l'hôpital, mais il continuait à perdre beaucoup de sang en cours de route. À notre arrivée, il a été déclaré mort. C'est le grand-père d'Ousmane qui déclare cela. En mars 2021, 14 personnes avaient été tuées lors de manifestations. Et jusqu'à présent, aucune justice n'a été rendue par les autorités sénégalaises aux familles des victimes. Pour que cesse la répression, que les familles des victimes aient accès à la justice et que les manifestants sénégalais puissent s'exprimer sans crainte de représailles, interpeller les autorités en signant notre pétition. Et je ferai un lien avec la manifestation qui a eu lieu à Évreux le 17 février 2024, à la Madeleine, à l'initiative de l'association Heure Solidaire, avec mes amis, et avec aussi le PASTEF de Normandie, donc l'association des patriotes du Sénégal. Et c'était un grand rassemblement qui a eu lieu place du marché de la Madeleine pour dénoncer le coup d'État constitutionnel du président Macky Sall, le report de l'élection présidentielle et la démocratie malmenée en Afrique. Donc il a été question effectivement de ces manifestations. Et moi, comme j'y étais, on m'a demandé au niveau d'Amnesty, j'ai juste fait part de la pétition qui était en ligne pour dénoncer ce qui se passait, les violences policières au Sénégal. Un petit rappel quand même sur justement la démocratie qui peut être menacée au Sénégal. J'ai rappelé aux manifestants qu'elle était menacée aussi en France. Et j'ai fait le lien avec la manifestation du 21 janvier 2024 contre la réforme Darmanin, enfin la loi asile-immigration, où il y avait peu de personnes premiers concernés de couleur qui étaient présentes à cette manifestation où on voulait défendre justement les droits de l'accueil des étrangers en France et pour un accueil digne. Donc en fait, ils ont un petit peu applaudi le fait que ça manquait de couleur à la manifestation du 21 janvier et que il faut défendre les droits humains partout dans le monde. C'est le slogan d'Amnesty et de notre émission, et partout dans le monde, y compris en France. Voilà.
Tout à fait. Mais bon, pour excuser ceux qui ne sont pas venus à la manifestation du 21 janvier, nous on y était, c'est qu'il faisait encore très très froid, c'était un dimanche matin, et il fallait avoir beaucoup de courage pour venir manifester, c'est sûr. Voilà. Mais c'est important ce que vient de dire Claire-Lise, effectivement, les droits humains, c'est partout dans le monde, pour tout le monde et tout le temps. Voilà. On va s'approcher tout doucement du terme de l'émission. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire part d'une petite information. Alors, on vous a de nombreuses fois parlé dans nos émissions précédentes. On vous rappelle qu'on a plein de podcasts, podcasts.
Plein de cartes postales.
Plein de cartes postales, c'est ça. Donc, de podcasts à réécouter sur le site de la radio, principactif.net, dans la rubrique Amnesty International. Donc, n'hésitez pas à les réécouter. Et dans de nombreuses émissions, on vous a parlé de cette chronique qui est aussi tirée de la chronique qui est le mensuel d'Amnesty France, nos droits à l'épreuve des nouvelles technologies. Parce que, bien sûr, les nouvelles technologies, ça permet effectivement de s'exprimer aussi et de faire passer des informations très positives, mais ça permet aussi de réprimer beaucoup, malheureusement. Donc, cette rubrique reprend en fait un certain nombre d'exactions qui sont dues aussi aux nouvelles technologies. Et je vais vous en lire une, donc ça se passe au Brésil, ça s'appelle Brésil lors des comptes. Le voile se lève sur l'espionnage généralisé mis en place par Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, qui a été donc président du pays de 2019 à 2023. Dans le cadre d'une enquête menée par la police fédérale, le numéro 3 du service de renseignement brésilien a été interpellé en octobre dernier. Il avait fait appel au système de surveillance électronique « dernier kilomètre », entre guillemets, c'est le nom du système, de la société israélienne Cognit, pour géolocaliser en temps réel les téléphones portables de 2200 avocats, journalistes et opposants politiques. On retrouve toujours à travers cette petite information et cette inculpation toujours les mêmes méthodes. On épie, enfin les autorités qui répriment ou les dictatures les dictatures très très poussées ou très light, peu importe, mais on réprime et on met sur écoute les opposants politiques, etc. On enregistre toujours dans le même optique, c'est de bâillonner la libre expression et de faire taire les voix dissidentes. Donc le Brésil, sous la présidence de Bolsonaro, qui n'y est plus maintenant, a pratiqué les mêmes méthodes. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir conscience que les nouvelles technologies, ça sert aussi malheureusement très souvent à réprimer. Et on vous en reparlera dans d'autres émissions. Et donc, actualité locale, avant de rendre l'antenne, actualité locale, on a donc deux informations à vous donner. C'est la prochaine émission d'Amnesty sur l'antenne de Principe Actif. C'est le mardi 12 mars prochain, de 19h à 20h, sur l'antenne de Principe Actif, bien sûr. Encore une fois, on a plein de podcasts aussi à écouter. Podcast, hein, j'ai réussi à le dire. Mmh. Et donc, on est également partenaire le lendemain de notre émission, donc c'est le mercredi 13 mars prochain. On est partenaire du Tangram pour un spectacle de danse qui s'appelle Nas les gens, qui aura lieu à 20h au cadran ici à Évreux. Donc il y a toujours des places en vente, hein, sur le site du Tangram, n'hésitez pas. Alors pourquoi on est partenaire d'un spectacle de danse? Ça peut paraître un petit peu étrange. Ben, c'est tout simplement parce que la troupe qui fait ce spectacle de danse, c'était une troupe en fait du Maghreb, principalement de gens d'origine du Maroc, et qui en fait font un spectacle de danse qui est une combinaison de danse traditionnelle marocaine et maghrébine, mais également de hip-hop, de danse moderne, enfin, etc., pour montrer qu'en fait, le fait de danser, la musique, effectivement, c'est universel et qu'il n'y a pas de séparation à faire entre les différentes cultures, que tout se complète, les différentes cultures et les différents peuples et les différents pays. Donc, c'est un spectacle qui appelle aussi à la bonne compréhension, enfin c'est pas le terme, mais aux bons échanges entre les peuples, et effectivement nous montrer que la culture c'est universel et que ça défend aussi nos droits et nos valeurs à tous. Donc voilà, ça s'appelle Nas les gens, le mercredi 13 décembre à 20h au cadran. 13 décembre, j'ai dit. Fallait bien que je me trompe dans la date, c'est ma spécialité de me tromper dans les dates. Donc, mercredi 13 mars prochain, au cadran. Et donc, on se retrouve, nous, la veille, mardi 12 mars, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Bon, dernière info, on vous le rappelle à chaque fois, mais c'est indispensable. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, c'est évreux. @amnestyfrance, Amnesty avec un Y et France tout attaché, amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. N'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions, on vous répond très vite.
Et puis voilà. J'ai oublié de le redire, mais une fois j'avais invité les auditeurs, s'ils voulaient participer à l'enregistrement de l'émission, ils peuvent venir nous rejoindre le mardi 12 mars, un peu avant l'émission, et venir dans le studio avec nous, s'ils veulent, voilà, ils peuvent nous contacter d'abord par le biais de la radio.
Il vaut mieux qu'ils nous préviennent avant.
On l'avait dit, et ça peut toujours se faire.
Voilà. Donc on va laisser l'antenne au laboratoire, dont l'animateur est déjà arrivé dans le studio, donc on le salue. On va lui souhaiter une bonne émission à venir. Et nous, on se retrouve donc le 12 mars sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle aussi qu'on a plein de podcasts dans la séquence, dans la rubrique Fréquence Droits Humains. Donc n'hésitez pas à les réécouter, dont celle sur les réfugiés avec le témoignage de ce réfugié russe qui date du mois de juin de l'année dernière. Mais n'écoutez pas à l'écouter. Son témoignage est extrêmement émouvant.
Attends, voilà. Parce que Claire Lise, elle a dit « j'invite les gens à assister à l'émission », mais je crois qu'on a quelqu'un qui a assisté à l'émission. Hein, Grégoire? Viens parler dans le micro,
elle
Grégoire.
Dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de quoi, Grégoire? Mina a vendu la mèche, on avait un auditeur en direct ce soir.
Oui, je vous encourage tous à venir écouter l'émission en direct, c'est vraiment un super moment.
Voilà, merci Grégoire. On vous dira pas qui c'est, on va garder le secret, Grégoire. Voilà. Donc à bientôt et on laisse la place au laboratoire. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux,